Morning Business, le débrief de la matinale.
Le débrief de la matinale ce matin avec Éric Delannoy, Wilfried Gadan et Emmanuel Lechypre. Et on va commencer avec l'emploi. Focus ce matin sur BFM Business, sur ces tensions, ces secteurs où on cherche parfois désespérément des talents un peu partout. On était ce matin avec le patron de Randstad en France, François Moreau, secrétaire général de Randstad en France. Pour lui, clairement, il y a des secteurs où on recherche toujours.
Il faut fabriquer les compétences là où elles n'existent pas, où elles n'existent plus. Je crois beaucoup à l'apprentissage, au contrat de professionnalisation pour les personnes qui ont plus de 30 ans. Le sujet de la formation, il est juste clé. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième point, il faut aller chercher des populations qui, malheureusement, n'ont pas été ciblées, n'ont pas été finalement formées. Je pense aux jeunes. On a toujours en France ce 1,5 million de jeunes, ni en emploi, ni en formation. Ça, c'est une priorité.
Alors c'est très très bien, mais moi j'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on dit ça. Il faut appuyer sur la formation en France, là où on n'est pas très fort. Qu'est-ce qu'il y a de neuf là-dedans? Et pourtant, il y a toujours les mêmes difficultés, Eric.
Ce qu'il y a de neuf là-dedans, c'est France Travail quand même. On a mis en place une structure qui va mettre en œuvre ce que vient d'évoquer François Moreau dans les 3 ou 4 prochaines années, avec un vote de l'Assemblée nationale qui a voté 5 milliards d'euros de budget pour faire en sorte d'aller chercher les profils éloignés de l'emploi, les former et les rendre disponibles à l'emploi. Ça n'a jamais été fait. Effectivement, ça n'a jamais été fait. Les moyens ont été mis en place pour que ça puisse se faire avec France Travail.
Donc France Travail, ça va tout changer?
Ça va pas tout changer, forcément, parce qu'il y a les économie qui est en train, qui ralentit, etc. Mais on le voit, oui, il y a aujourd'hui une inadéquation complète entre la formation et les besoins, inadéquation qui s'accélère avec les problématiques de transition. Eh ben, il faut qu'on mette en place les structures qui vont bien pour former correctement les personnes, y compris celles qui sont le plus éloignées de l'emploi.
Ce qui est quand même compliqué, Emmanuel, c'est qu'on voit que ça dégraisse dans la tech. Et la Société Générale, ce matin, qui annonce encore 900 postes qui vont être supprimés. Alors, pas de départ contraint, mais quand même, c'est des postes qu'il va falloir faire bouger. Et à côté de ça, on a l'aéronautique, toute l'industrie qui cherche partout la restauration pour les JO. Il n'y a pas un secteur où on est complet en termes de recrutement.
Ben parce qu'il y a plusieurs logiques qui se télescopent. Il y a effectivement les secteurs qui finalement, et c'est ça qui est nouveau, c'est-à-dire qu'on a vraiment une dualité dans les besoins et dans la conjoncture, mais c'est aussi le lot de toutes les périodes où vous avez des grandes mutations technologiques qui font qu'il y a des secteurs qui sont en perte de vitesse sérieuse et d'autres qui émergent. Alors après, sur la formation, il y a quand même un gap qui est absolument considérable et qu'on ne comblera pas comme ça, même avec France Travail. C'est-à-dire qu'il faut rappeler quand même que vous avez 80% des gens qui sont inscrits à Pôle emploi aujourd'hui qui ont au mieux le baccalauréat. Donc ces gens-là, ça va quand même être extrêmement compliqué de les réadapter au marché du travail, parce que une des raisons pour lesquelles c'est dur de recruter, là c'est sur les emplois peu qualifiés, c'est qu'il y a un problème de salaire. Et là du coup, vous retombez sur toutes les problématiques, coût du travail, etc. Donc à la fois, on a des difficultés de recrutement dans les secteurs de col bleu, j'ai envie de dire, et de service à la personne, etc. Et là, c'est vraiment un sujet salaire, coût du travail. Et puis après, la réalité, c'est que la France, malheureusement, ne forme pas assez de profils hautement qualifiés, puisque l'université a complètement démissionné. C'est-à-dire que l'université ne joue pas son rôle de formation de masse et de qualité, et les grandes écoles ne forment pas assez d'ingénieurs. Donc on a vraiment ce problème de quantité de main-d'œuvre très qualifiée dont on a besoin aujourd'hui. Rajouter là-dessus l'intelligence artificielle, dont on commence à voir quand même quelques effets, même si c'est difficile de théoriser encore sur le sujet. Oui, ça fait beaucoup de difficultés.
Wilfried.
Ouais, enfin, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a des pans entiers qui sont inadaptés aujourd'hui au marché du travail tel qu'il est. Et en fait, la solution, elle vient à la fois des pouvoirs publics et des entreprises. C'est-à-dire, les pouvoirs publics ont une responsabilité. Éric l'exprimait très bien. Avec en plus, je rajouterais la réforme nécessaire de l'enseignement professionnel, qui a été très très longtemps le parent pauvre en fait de toutes les réformes. Donc ça, il y a véritablement quelque chose à faire. Mais on sait que ça prend du temps, ce genre de choses. Et puis, pour résoudre plus rapidement le problème, on voit que les entreprises prennent le problème à bras le corps.
Chacun fait sa petite école.
Et exactement. Il y a énormément d'entreprises, en tout cas importantes.
Les CFA.
Exactement, qui essayent au maximum en fait de se constituer eux-mêmes leur vivier pour dire effectivement, ces personnes qui sont éloignées soit de l'emploi, soit de l'univers que je propose globalement, à la fois géographique et professionnel, je vais essayer de les attirer. Je vais aussi vous avez des entreprises qui ont des parcs de logements maintenant, qui essaient de louer à long terme pour essayer de donner justement cette facilité de déménagement. Il y a tout un travail à faire.
Mais ça, philosophiquement, par exemple, Éric, vous, ça vous gêne pas de savoir que chaque boîte crée son, son école et qu'on a de moins en moins un corpus général de formation
ça
que...
a été...
bah non, c'est de pire en pire.
Mais non, non, mais ça...
c'est de pire
mais
en pire.
Si c'est de pire en pire.
Vous avez la formation
pendant
Microsoft.
Des,
pendant
des décennies, à part les 30 années de chômage de masse où les boîtes
vous n'êtes pas Eric, hein, vous êtes Emmanuel.
La formation. Pardon, ça a toujours été le cas, donc c'est pas nouveau.
Bah, moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de CFA. Mais
en fait, il y a de plus en plus de CFA parce qu'il y a de plus en plus de besoins de métiers spécialisés. Mmh. Alors que le cursus général n'est pas adapté à ça. Quand Emmanuel dit qu'il y a 80% des personnes au chômage qui n'ont pas le bac n'est pas forcément la solution. Aujourd'hui, pour être soudeur, pour être frigoriste, il n'y a pas forcément besoin du bac, ou c'est des bacs spécifiques qui viennent après une formation technique qui est revalorisée, notamment à travers la...
Mais ça existe, un bac pro soudeur.
Oui,
ça existe.
Oui, bien sûr que ça existe. Le problème, c'est que les imaginaires ne sont pas là. Exactement. Le problème, c'est que ça a toujours été des filières, pardonnez-moi l'expression, poubelle, et c'est ça qui est un véritable scandale. C'est qu'avec l'objectif de 80% d'une génération au bac, à lauréat général, on s'est dit que tout le reste, c'était ceux qui n'y arrivaient pas. Alors qu'en réalité, il y a énormément de métiers très bien payés, très bien formés et très utiles socialement, socialement, qui ne nécessitent pas de prendre une filière.
Très épanouissant.
Et donc, il faut former, il faut faire des CFA, etc. Et l'autre point qui n'a pas été évoqué ce matin, c'est les conditions de travail. Les conditions de travail, au-delà du salaire et du coût du travail, sont aussi une des conditions pour qu'on puisse embaucher mieux. Or, quand on met en place des formations spécifiques dans des entreprises spécifiques, on forme aussi à des conditions de travail qui sont meilleures que quand on arrive sur le marché du travail sans vraiment savoir où on aboutit, où on atterrit.
Pendant ce temps-là, la question des Jeux Olympiques, on racontait ce matin dans les journaux à quel point la tension commence à être forte vis-à-vis des Jeux Olympiques et à quel point les Jeux Olympiques servent en fait de chantage pour augmenter les salaires, pour négocier des primes. On voit ça dans différents secteurs d'activité. On a vu ce préavis de grève à la RATP qui va jusqu'à le mois de septembre. Ça sert de chantage, Eric, les Jeux Olympiques.
Non, mais façon, pardonnez-moi, mais on marche sur la tête dans tous les sens, quoi. Je veux dire, la RATP est une entreprise qui est déficitaire et la puissance publique va voter une dotation pour pouvoir verser des intéressements à des salariés dont on sait que aujourd'hui une partie de la qualité de service se dégrade. Par ailleurs, on a des boîtes qui font des profits incroyables et qui n'améliorent pas les conditions de travail. On marche sur la tête.
Mais qu'est-ce qu'on fait face au chantage à la grève ? On fait rien. On fait des primes pour les chauffeurs de bus.
Le chantage à la grève, c'est automatisation, mise en concurrence, hein, je veux dire, traditionnellement.
Ah oui, alors là, vous êtes plus radical que d'habitude.
Mais oui, parce qu'à un moment, ça va bien. Pourquoi il y a des entreprises. Pourquoi il y a des entreprises. Oui, enfin, moi, j'essaie d'être équilibré, contrairement à ce que pourrait prétendre Emmanuel. Je ne suis pas non plus le bolchevique de service, quoi, hein, si vous voulez. Donc,
Eric prend le métro.
À un moment.
Oui, oui, ça énerve.
Il faut faire appel à la responsabilité. Or, il existe malheureusement en France des syndicats qui ne font pas l'appel à la responsabilité.
Emmanuel.
Non, mais je veux dire, ça va durer un mois. Enfin, mi-août, on n'en parlera plus.
Non, mais...
C'est un problème ponctuel, les Jeux Olympiques. C'est pas un sujet de fond.
Excusez-moi, mais vous avez Bernard Thibault qui dit dans la tribune dimanche qu'il ne conseille pas au gouvernement de faire des réformes sur l'assurance chômage parce que c'est les Jeux Olympiques.
Non, mais
ça,
voilà,
c'est du chantage.
On va mettre les Jeux Olympiques à toutes les sauces pendant six mois. Et après on n'en parlera plus.
Très bien. Bah, alors, passons à l'IACT. Ça, on peut continuer d'en parler. Parce que ça va peut-être nous occuper un petit moment. C'est signé. L'Europe a dit oui à la première loi au monde pour réglementer l'intelligence artificielle, être le premier à réglementer au monde, est-ce qu'il faut vraiment s'en féliciter? On a posé la question à Michel Paulin d'OVH Cloud. Écoutez.
Je pense qu'aujourd'hui, l'IA pose des vraies questions fondamentales, éthiques, etc., et qu'il est important que la régulation et les réglementaires se posent la question de savoir s'il faut réguler. Moi, je trouve que c'est précipité, en revanche. On est les premiers au monde, est-ce que c'est l'objectif d'être les premiers au monde? Il y a d'autres sujets sur lesquels, par exemple, l'Europe est très en retard. Dans le cloud, on n'arrive pas à réguler sur plein de sujets. La mise en application du RGPD. Et là, il y a un nouveau sujet et immédiatement, on est en train de réguler. Donc, sur le principe de régulation, je pense que c'est important. Est-ce qu'il est indispensable d'être les premiers au monde à réguler et de mettre, beaucoup le curseur très très loin? Je pense que ça, c'est vraiment regrettable.
Wilfried, il l'a dit clairement, Michel Paulin, ça va nous ralentir.
Bah ouais, moi je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça ne surprendra pas mon ami Eric, qui je sais a une position très, très différente, qui n'est pas d'accord. Moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le 7 décembre dernier, on a eu simultanément l'annonce du pré-accord qui vient d'être validé aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, la régulation de l'intelligence artificielle au niveau européen, et la démonstration par Alphabet de son nouvel outil Gemini, qui, par certains aspects, était encore plus puissant que ChatGPT.
Vite, on va dans deux directions opposées, quoi.
Et en fait, tout le problème, c'est qu'il faut d'abord produire et être puissant, et ensuite réguler. Là, en fait, on a ce réflexe européen qui est d'ajouter une nouvelle chapelle à la cathédrale normative. Alors c'est fabuleux, vous faites une fantastique Sagrada Familia que vous pouvez admirer de l'extérieur en disant c'est vraiment exceptionnel et vous féliciter. Le problème c'est qu'à l'intérieur, il va falloir avoir les moyens pour construire quelque chose. Aujourd'hui, quand vous regardez les investissements dans l'intelligence artificielle, et évidemment il y a Mistral AI, évidemment il y a je crois Alpha Senses qui est la partie allemande de l'intelligence artificielle, mais quand vous regardez les montants par rapport aux montants qui sont investis aux États-Unis et en Chine, c'est picrocolis.
Donc on est cuit.
Donc ouais. donc on fait des choses à l'envers.
Eric.
Non mais enfin je m'inscris bien sûr en faux contre ça. Enfin effectivement on a 5 fois moins d'investissement que dans les autres pays, mais c'est pas parce qu'on a réglementé puisqu'on n'avait pas réglementé. Donc c'est pas la réglementation qui a fait.
Mais c'est pas la priorité.
On a une vision et une appréhension du risque en Europe qui est connue, qui nous a fait défaut quand on a travaillé sur les problématiques pharmaceutiques avec la ARN messager, etc., etc. Donc c'est un problème économique totalement différent. La problématique d'appréhension du risque, l'investissement dans les startups. Ce n'est pas parce qu'on a réglementé l'IA qu'on est moins bon en Europe sur l'IA que dans les autres pays, puisqu'on n'avait pas réglementé l'IA.
Donc, mais qu'est-ce qu'il y a bien du coup dans l'IA-ACT ?
Ce qu'il y a bien dans l'IA-ACT, c'est que pour une fois, on ne va pas être dans la logique de marché qui consiste à privatiser les gains et à socialiser les pertes ou les difficultés. On va être dans privatisons la prévention. C'est-à-dire qu'effectivement, les boîtes vont devoir payer pour prévenir, pour faire en sorte qu'il y ait moins de pertes. Regardez ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux cette semaine avec Mark Zuckerberg, la pantalonnade devant le Congrès. On a quelqu'un qui fait 30 milliards de dollars de bénéfices par an et qui juste a besoin de se retourner vers les victimes des réseaux sociaux pour dire « je m'excuse » devant des congressmen qui se disent « ce n'est pas bien ». Mais parce que les réseaux sociaux qui n'ont jamais été réglementés, enfin, créent des dégâts considérables que la société doit payer. Enfin, c'est quand même incroyable. Et on se dit qu'il faudrait qu'on fasse la même chose avec l'intelligence artificielle, qui a des potentialités de nuisance bien plus importantes.
Mais je comprends pas, parce que sur les réseaux sociaux, la question c'était le cyberharcèlement, c'est pour ça qu'il s'est excusé.
Bien sûr.
Interdire le cyberharcèlement, ça veut rien dire.
Non, c'est par mettre beaucoup plus de moyens sur la régulation. Interdire les points en ligne, on aurait pu imaginer de mettre plein de systèmes pour pouvoir identifier les harceleurs du même. Enfin bref, il y a plein de systèmes pour...
C'est investir dans la modération.
Bien sûr, investir dans la modération. Je voulais terminer sur le
RGPD.
RGPD, en 2018, il y a eu les mêmes débats. Ça va empêcher l'investissement, ça va être terrifiant. 2018, on a mis en place le RGPD. 5 ans plus tard, le bilan, il est incroyablement positif. Positif pourquoi ?
Parce que tout le monde clique sur OK.
Non. Il y a eu 12 000 plaintes qui ont été instruites avec des régulateurs qui se sont mis en place, avec 2,5 milliards d'amendes qui ont été mises en place. Et ça va beaucoup moins loin que s'il n'y avait pas eu RGPD. Il y a 70 pays, dont les États-Unis, qui ont pris en compte cette réglementation après que l'Europe ait été précurseur. Ce qui va se passer sur IA, ça sera exactement pareil.
Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le RGPD.
Emmanuel, écoutez bien parce que vous devrez trancher à la fin.
Le RGPD, c'est à destination des consommateurs. Et évidemment, l'Europe étant un marché de consommation, malheureusement, et pas de production, forcément, ils ont défini le standard. L'intelligence artificielle, le but, ce sera de s'adresser aux entreprises. Que va faire les géants américains, chinois, et même maintenant les géants anglais. Les géants anglais, ils ne vont même pas respecter du tout l'intelligence, l'IA-ACT. Donc nous, on va se retrouver bloqués et pas les autres.
Je pense pas. L'Europe est suffisamment puissante pour pouvoir importer.
Pas sur la production. On ne fait rien.
Cette fascination pour
le RGPD le montre.
Mais le RGPD, t'as 12 000 cas, etc. Mais qu'est-ce que, enfin, je veux dire, c'est se satisfaire.
70 pays l'ont mis en place, dont les États-Unis.
Alors vas-y, Emmanuel.
Mais moi, je suis d'accord avec Wilfried. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que intellectuellement, dire que le RGPD et l'IA-ACT c'est comparable, c'est du délire absolu. C'est-à-dire que ça, en rien, le RGPD n'avait un impact sur ta capacité à créer, à innover. Là, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on peut pas être le premier à réglementer et le dernier à innover. Et Wilfried a raison. Toute l'innovation qui était déjà très faible ira ailleurs. On oblige les boîtes à dévoiler leurs secrets de fabrication quasiment.
Il y a des interdictions.
Donc, on ira très bien.
Nommément.
Et on se rend pas compte aujourd'hui. Alors, on peut se satisfaire encore une fois d'être les premiers à réglementer, etc. Mais la réalité, c'est que c'est bien pire. C'est que non seulement on se crée un handicap pour investir, mais le fait aujourd'hui qu'il n'y ait pas d'intelligence artificielle européenne pose tout un tas de problèmes à des tas de boîtes en termes de souveraineté qui aujourd'hui sont bloquées parce qu'elles voudraient finalement mettre en place de l'intelligence artificielle et qu'elles ne peuvent pas le faire parce que ce sont uniquement des propositions étrangères qui leur posent d'énormes problèmes de souveraineté.
Éric, rapidement, il n'y a pas à
c'est vraiment, le petit bout de la lorgnette.
Encore une fois, on mélange deux choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réglementation jusqu'à présent sur l'IA, et pourtant, on est déjà en retard. Donc ce n'est pas lié à la réglementation. Le fait que l'on soit en retard, c'est lié à bien d'autres choses. Premier élément. Deuxième élément, pourquoi il y a une similitude entre RGPD et l'IA ? Parce qu'à partir du moment où, où vous êtes dans les services numériques, l'individu devient le produit. Quand vous êtes sur le marché de masse, vous avez accès à des produits de masse, l'individu n'est pas du tout le produit. Moi, je n'ai pas envie que ma vie privée devienne la propriété d'entreprises privées. Alors que quand vous achetez de l'électroménager, vous n'avez rien à faire de ça. Je veux dire qu'il faut effectivement de la concurrence, une logique de marché qui fonctionne. Quand c'est l'individu qui devient le marché, il faut protéger l'individu. Et quand on parle de l'IACT, il est très équilibré parce qu'il est graduel. Pour l'IA qui va s'occuper de l'optimisation d'une supply chain, la réglementation, elle sera très faible parce que les effets systémiques seront très faibles. Mais pour un IA qui va s'occuper des problématiques autour de la personne, notamment reconnaissance faciale, notamment données biométriques, là oui, il faut réguler. Parce que on
lutte avec des interdictions.
Bien évidemment, parce qu'on lutte contre.
Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que sera cette technologie.
Et ben c'est parce qu'on ne le sait pas. Et qu'on a déjà vu les dégâts qu'il faut prévenir.
Mais on n'a pas déjà
vu les
dégâts.
Pas qu'on ne sait pas qu'il faut déjà
c'est
réguler.
C'est pas vrai. Mais voilà, c'est ça.
On est déjà en avance.
Pour orienter les investissements.
Entre réagir beaucoup trop tard.
Pour orienter les investissements.
Entre réagir beaucoup trop tard et taper avant même d'avoir mal. Sauf franchement, moi je pense que on verra bien, mais
cette échelle-là, on ne sait pas le dire.
Je pense.
Allez, on passe.
Encore une fois, laissons innover et puis on verra bien après.
Mais... On passe aux banques régionales américaines. On a eu quelques alertes ces dernières semaines. Elles sont plusieurs à avoir annoncé des pertes importantes. L'onde de choc se fait même ressentir dans le monde entier. Antoine Nollard, depuis Washington, nous explique tout.
Oui, depuis la pandémie, les Américains ont pris goût au télétravail, les bureaux se sont largement vidés et l'immobilier commercial traverse une crise sans précédent. Le taux de vacances atteint des niveaux records. Résultat, de nombreux promoteurs sont pris à la gorge, ils n'arrivent plus à rembourser leurs crédits et cette crise, désormais, se répercute sur les banques. Plusieurs établissements ont subi des pertes importantes, 185 millions par exemple pour la New York Community Bancorp, une banque régionale qui a dû par ailleurs mettre de côté 500 millions supplémentaires pour couvrir de nouvelles pertes potentielles. L'onde de choc se propage au-delà des frontières américaines, jusqu'au Japon et en Europe. Une petite banque nippone vient d'annoncer un trou de 200 millions d'euros. Même chose chez Deutsche Bank qui a provisionné 123 millions. Et tout cela n'est qu'un début. Au cours des deux prochaines années, on estime que plus de 500 milliards de prêts arrivent à échéance. Un mur de dette qui concerne essentiellement les banques régionales. L'immobilier commercial, c'est leur principal business, ce qui évidemment fait craindre une nouvelle crise dans ce secteur déjà fragilisé après le naufrage de trois établissements l'an dernier.
Alors, craindre une nouvelle crise, Wilfried, l'immobilier commercial, ça fait quand même des semaines qu'on se dit que c'est ce qu'il faudra regarder aux États-Unis, c'est là d'où viendra la fragilité. Est-ce que là, c'est un signal ou pas ?
Alors, il faut savoir que le cas de la banque communale de New York est quand même très particulier. Déjà parce que l'immobilier commercial, ça recouvre énormément de choses. L'immobilier commercial, par exemple, si vous investissez dans des hôtels aux États-Unis, il y a aucun problème. Le problème, c'est que si vous avez investi dans des immeubles de bureaux, en particulier dans des grandes métropoles comme
c'est pour ça qu'on parlait
New York,
du travail,
exactement. Ouais. Et donc ça, effectivement, c'est un sujet. Donc le marché new-yorkais est particulièrement sinistré. Donc la banque communale de New York a effectivement un sujet très spécifique sur ce point-là. Une fois qu'on a dit ça, et effectivement, il faut être très, très mesuré sur la question et rassurant. Effectivement, ce qu'on voit, c'est que l'impact global de la hausse phénoménale des taux d'intérêt, je rappelle qu'aux États-Unis, on est à 5,25% sur les taux de la Fed, globalement, a un impact décalé dans le temps qui, sur certains pans spécifiques de l'économie, se cumulent. Et donc, il faut surveiller parce qu'effectivement, ces impacts, au fur et à mesure qu'on a des refinancements qui arrivent, sont de plus en plus lourds. Ça reste aujourd'hui totalement gérable. Ce qui est à surveiller, c'est que dans le dernier communiqué de la Réserve fédérale, il n'y a plus marqué que le système bancaire américain est sain et résilient. Ils l'avaient jusqu'à présent, ils l'ont supprimé dans le dernier.
Mais ça, c'est une bonne ou mauvaise nouvelle ?
Ça veut dire qu'en fait, soit ils regardent plus, soit ils se disent on a un sujet.
Soit résilient, c'est le mot est trop fort.
Voilà, soit c'est trop fort. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le cas de la banque de New York, moi, ne m'inspire pas d'inquiétude. Mais au-delà de ça, effectivement, ça veut dire quand même qu'il y a des pans de marché qui sont, et on le voit dans le secteur typiquement immobilier, immobilier, il y en a d'autres d'ailleurs, qui sont impactés par cette hausse des taux. Et il faut rapidement maintenant enclencher le mouvement inverse de baisse des taux. Vous savez que c'est un de mes mantras.
Oui, mais c'est pas ce qu'a dit Jérôme Powell.
Il va y venir.
Faut que ça infuse. Eric. Voilà.
Non, mais enfin, moi je suis assez d'accord avec Wilfried. Le point important qu'il faut garder en tête, c'est qu'aux États-Unis, le nombre de banques régionales est considérable. Il y en avait 18 000 dans les années 80, il y en a encore 5 000 quasiment. C'est-à-dire quasiment deux fois plus que dans toute l'Europe. Donc il y a un mouvement de consolidation des banques commerciales américaines qui doit continuer à se faire pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il y a une réglementation spécifique sur les banques régionales liée à la libéralisation qu'avait provoqué Donald Trump, qui fait qu'il y a des ratios réglementaires qui n'ont pas été respectés pendant très longtemps. Donc maintenant, à chaque fois qu'il y a un petit problème sur un des marchés traités par ces banques régionales-là, ça donne un effet de crise. Mais en fait, c'est pas un effet de crise, il y a un effet de rattrapage. La banque de New York, en l'occurrence, enfin la New York Bank Corp, pourquoi elle génère des pertes? C'est parce que en ayant un actif, un bilan qui augmente, elle doit maintenant respecter quelques ratios qu'elle ne respectait pas, et donc elle a dû provisionner, ce qui a dégradé ses résultats. Voilà une des raisons pour lesquelles ça s'est passé. En Europe, bien évidemment, il n'y a pas de sujet. On parlait de Deutsche Bank. Deutsche Bank, 150 millions de provisions pour Deutsche Bank sur l'immobilier commercial, c'est rien. Ils viennent d'afficher 5 milliards de bénéfices l'année dernière après une résilience incroyable et des années de pertes. Donc il n'y a pas de sujet. Il y a un sujet de consolidation aux États-Unis.
Je suis contente que vous terminiez d'accord et que les banques américaines vous aient mis d'accord, parce que sur les hacks, j'ai cru que vous étiez fâché. Emmanuel.
On n'est jamais fâché.
Il n'y a plus de temps, c'est pas grave. Voilà. Vous étiez d'accord avec tout le monde.
À bientôt.
À bientôt. Merci Emmanuel. À plus tard.